7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, sur Inter, bonsoir Mickaël Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Mickaël, direction le Sénégal, Dakar, où a repris cet après-midi le procès d'Hissène Habré.
Oui, Hissène Habré, ex-président du Tchad de 1982 à 1990, procès exemplaire, on l'a souvent dit ici même, exemplaire en matière de lutte contre l'impunité de certains chefs d'État. Vous vous en souvenez peut-être, le 30 mai dernier, Hissène Habré avait été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, crimes commis sous son régime de terreur dans les années 80 et pour lesquels il avait été condamné à la prison à perpétuité. Condamnation historique, car pour la première fois sur le continent africain, un ancien dirigeant était jugé par la justice d'un autre État, en l'occurrence ici le Sénégal. Espoir évidemment pour les victimes de régimes oppresseurs qui ne peuvent pas obtenir justice dans leur propre pays. Bonsoir Amélie Tullet en direct de Dakar.
Bonsoir Mickaël.
Alors vous êtes précisément au palais de justice de Dakar pour ce nouveau volet judiciaire, procès en appel ou presque hein.
Oui, première journée d'audience pour cette étape qui sera la dernière étape de ce procès historique. Alors il s'agit plus d'une cassation que d'un appel. L'affaire n'est pas rejugée, ce n'est pas un nouveau procès. Il est question ici de droit et de procédure. D'ailleurs, Hissène Habré n'est pas là, il est resté dans sa cellule VIP du camp militaire du Cap Manuel. Il a refusé de répondre à la convocation de la cour. Le juge a estimé que sa présence n'étant ni nécessaire ni obligatoire, le procès en appel pouvait commencer sans lui. Rien à voir donc avec l'ambiance électrique du printemps dernier. En première instance, une salle aux trois quarts vide, des échanges plutôt sympathiques entre les avocats et la cour et des débats pointus sur le plan juridique.
Et cette condamnation à la perpétuité d'Hissène Habré peut-elle être remise en question à l'issue de ce nouveau procès, Amélie ?
Techniquement, oui. C'est ce que souhaite la défense. L'un des avocats de Hissène Habré n'a pas hésité à conclure sa présentation par un « Monsieur le juge, vous avez le devoir impérieux de libérer un Africain ». Les avocats de Hissène Habré, je vous le rappelle, sont des avocats commis d'office, car l'ancien dirigeant tchadien refuse depuis le début de reconnaître la cour. Aujourd'hui, ils ont développé leurs arguments. Ils contestent la composition des chambres, notamment parce qu'un juge n'avait pas l'expérience requise. Ils dénoncent des erreurs dans la procédure, un procès bâclé. Ils ont aussi mis en doute plusieurs témoignages. Ils estiment que le viol dont a été personnellement reconnu coupable Hissène Habré est une invention qui n'a servi qu'à humilier leur client. Mais selon les observateurs, aucun de ces arguments n'est de nature à invalider la décision du juge, car les preuves sont nombreuses et solides. La peine peut être allégée, mais un acquittement semble peu crédible. L'audience a été suspendue. Demain, les parties civiles répondront aux arguments de la défense. Elles ont prévu aussi de demander des précisions sur les réparations accordées aux victimes.
Et des victimes, rappelons-le, qui ont dû attendre un quart de siècle pour ce procès.
Oui, c'est l'autre aspect marquant de cette affaire, la ténacité des survivants. Une commission d'enquête tchadienne a estimé à 40 000 le nombre de morts et de disparus sous Hissène Habré. Et pourtant, celui-ci a vécu plus de 20 ans un exil tranquille au Sénégal. Mais les victimes n'ont jamais baissé les bras. Elles se sont battues jusqu'à la création de ces chambres africaines extraordinaires. Dans ce procès, 4 000 personnes, survivants ou descendants de disparus, se sont constituées partie civile. Une fois les audiences terminées, la cour aura jusqu'au 30 avril pour rendre sa décision finale.
Et on suivra ça évidemment avec vous Amélie Tullet en direct de Dakar. Merci.
Et l'on reste, Mickaël, sur le continent africain avec bientôt la 25e édition du FESPACO.
Ouais, FESPACO pour Festival Panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'un des plus grands festivals de cinéma africain. Il se déroule tous les deux ans donc à Ouaga, la capitale du Burkina Faso. Nouvelle édition qui aura lieu du 25 février au 5 mars prochain. La liste des films en compétition officielle a été dévoilée il y a quelques jours et il en est un qui retient particulièrement l'attention de la presse africaine, notamment francophone, le dernier film de Sylvestre Amoussou intitulé « L'orage africain, un continent sous influence ». Dans ce film de politique fiction, comme il le dit lui-même, le réalisateur béninois pose cette question « Que se passerait-il aujourd'hui, en 2017, si un pays africain défiait l'Occident ?» Comprenez si un pays africain décidait de reprendre tous les moyens de production aux mains des Occidentaux. Bande-annonce.
Le gouvernement et moi-même avons décidé à l'unanimité de nationaliser tous les moyens de production installés au Tangara par des entreprises occidentales.
Ah, comme si un Africain était capable de faire le bonheur de l'Afrique.
Je crois que je vais me faire cadeau de mes mines de diamants.
Oui, mes puits de pétrole et mes mines de coltan.
La danse des panthères est terminée.
toutes ces richesses appartiennent également à ceux qui les sont plus.
Je suis chez moi, pas vous.
Se méfier des Africains. Un jour c'est lui, le lendemain c'est non.
Lui, il a les dents qui rayent le parquet. Il est déjà Premier ministre, il veut aller plus loin. Si on le met en place, il mange dans la main.
Du coup, nous nous sommes dit que vous aviez la stature d'un président de la République.
Vous êtes comment pour flanquer le chaos dans le pays?
Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça dans plusieurs pays africains.
Et vous l'avez compris, les investisseurs occidentaux, plus d'un demi-siècle après la décolonisation, n'entendent pas perdre leur gagne-pain, pour ne pas dire leur poule aux œufs d'or. Français, Suisses et Belges se mettent donc d'accord pour renverser ce gouvernement beaucoup trop indépendantiste. Ils se choisissent donc un nouveau candidat à la présidence, candidat idéal puisque garant de leurs intérêts. Je ne vous raconte pas la suite, mais le réalisateur lui-même s'est expliqué dernièrement sur la chaîne benintv.com. Discours pour le coup très panafricain et pour des raisons apparues dès la conception même du film, Sylvestre Amoussou.
Au départ, c'était pas un choix. À la base, un réalisateur a envie d'avoir un producteur qui finance, qui soutient et qui accompagne le réalisateur. Mais vous voyez les sujets que j'aborde, c'est pas les sujets que les Occidentaux ont envie de voir. Parce qu'il y a plusieurs guichets en Europe, le Fonds Sud, le Fonds Image Afrique, il y a plein de fonds et en Europe qui accompagnent les films africains à condition que ça soit des films sur le misérabilisme. Et il y a que les Africains qui ne prennent pas conscience que leur continent regorge de richesses. Tout le monde vient se servir en Afrique. On parle de l'Eldorado, mais en même temps, à travers les médias occidentaux, on dit c'est le pays de tous les maux, de la misère, des pandémies, ce qui n'est pas faux, parce que on appauvrit l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. Donc, l'orage africain, c'est quoi? C'est un pays imaginaire, un chef d'État d'un pays africain imaginaire qui en a assez de voir son continent, son pays spolié par l'Occident. Et il décide de nationaliser les matières premières et les moyens de production qui vont avec. Et il donne 3 mois aux Occidentaux de quitter son pays. Donc moi, je suis convaincu que ça va arriver.
Voilà, Sylvestre Amoussou, qui n'a donc pas reçu de financement européen pour son film « L'orage africain, un continent sous influence ». Film qui sera projeté au FESPACO 2017 le mois prochain à Ouagadougou. Et pour l'heure, pas de distributeur en vue en Europe.
Et l'on termine, Michael, par le vieux continent avec des nouvelles ce soir du Brexit,
vu d'Écosse et plus précisément vu d'un secteur locomotive de l'économie, j'ai nommé le whisky, Nicolas. Car les producteurs de whisky écossais n'ont pas attendu le début officiel des négociations pour commencer à discuter entre eux des nouveaux arrangements économiques possibles. Bonjour Antoine Gignot en direct de Londres.
Bonjour.
Alors il faut dire d'abord que le whisky, évidemment, c'est un enjeu économique colossal, 40 000 emplois en Grande-Bretagne, un marché de plus de 4 milliards d'euros d'exportation l'an dernier. Et vous nous emmenez ce soir dans le nord de l'Écosse, direction les Highlands, distillerie d'Eden Mill, l'une des plus récentes de la région. Visite très parfumée, Antoine.
Il y a cette petite odeur d'éthanol qui flotte au milieu des tonneaux et des barriques. Nous sommes à côté d'un alambic en cuivre spécialement forgé pour l'occasion. John Bruin a lancé sa distillerie en 2012 avec des amis. Il a commencé par faire de la bière, puis du gin avant de produire du whisky.
C'est la première fois depuis 150 ans qu'on produit un nouveau whisky single malt dans la région.
Et c'est cette image de produit exceptionnel que John exporte à l'étranger. Avec une croissance exponentielle, l'embauche de 50 salariés en 4 ans, des salariés qu'il espère pouvoir garder après le Brexit.
Ça va rendre les choses plus difficiles. On est encore une petite entreprise. Jusqu'au vote, on exportait un peu partout en Europe et un peu plus loin vers la Chine, Singapour, Hong Kong et aux États-Unis aussi. On exporte probablement à peu près autant en Europe qu'à l'extérieur de l'Union européenne. Et maintenant, je ne sais absolument pas à quoi s'attendre. On a l'impression que personne ne sait ce qui va se passer.
Car ce n'est pas seulement le marché européen qui est touché. En sortant de l'Union, les producteurs écossais vont probablement aussi ainsi perdre le bénéfice des accords de libre-échange négociés entre Bruxelles et le reste du monde, explique Rosemary Gallagher, représentante de l'Association des producteurs de whisky écossais.
Le Brexit pourrait entraîner des changements un peu partout, par exemple en Corée du Sud, qui bénéficie de tarifs fixés par un accord européen, et d'autres marchés, comme en Inde. Le whisky écossais va être touché au niveau de la labellisation, de la régulation, de la protection juridique. Alors on parle avec les députés, on discute avec le gouvernement pour essayer de prévoir ce qui pourrait se passer.
Oui, hein, car ce ne sont pas seulement les prix à l'export qui risquent de changer, Antoine, mais c'est la totalité de la production qui pourrait être fragilisée.
Absolument. Aujourd'hui, les whiskies écossais sont reconnaissables à leur label IGP, Indication Géographique Protégée, un label délivré par l'Europe. Avec le Brexit, les producteurs risquent de devoir dire adieu à cette étiquette, à cette identité, explique Libby et Kera, spécialistes des dégustations.
C'est totalement lié à l'image de l'Écosse. En Écosse, on a quelques-uns des meilleurs produits du monde. Que ce soit le gin, le whisky ou la viande de bœuf, je pense que les gens continueront à nous les acheter.
On espère toujours qu'on pourra continuer à faire partie de l'Europe et que tous les liens commerciaux pourront perdurer.
Et en attendant, les producteurs capitalisent sur l'autre effet du Brexit. Avec la baisse de la livre, leurs produits sont plus concurrentiels face au whisky irlandais et américain.
Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres, de retour des Highlands. Merci Antoine et Nicolas, à demain.
À demain.